rhythm. Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression pour vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif, au travers de rencontres inspirantes, de partages d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, on parle bien-être au travail. À l'heure de l'intelligence artificielle et de l'entreprise libérée, que reste-t-il du management et des managers? Le monde de l'entreprise connaît une série de transitions qui amènent tensions et contradictions. Le manager doit à la fois donner envie et mettre la pression, tout contrôler et favoriser l'initiative, mobiliser ses forces et s'adapter. Comment ramener de la cohérence dans l'incohérence tout en gardant son équilibre psychique? Dans son dernier livre, Le manager est un psy, paru aux éditions Erol et coécrit avec Jean-Luc Emery, Éric Albert apporte des clés de lecture pour le mieux-être des managers et ainsi éviter la surcharge mentale et les aider à prendre du recul. C'est avec la casquette d'entrepreneur que Blooming You est allé à la rencontre du psy et éditorialiste aux Échos, Éric Albert, pour mieux comprendre en 3 épisodes pourquoi et comment passer du mode pilote automatique au mode pilote conscient? Quels sont les nouveaux paradigmes du leadership? Et comment libérer la passion et le talent autour de soi? Bienvenue dans le 3e et dernier épisode de la série Le manager est un psy. Eh bien, bonjour Éric.
Bonjour.
Alors, Éric Albert, c'est la 3e fois qu'on se voit. Pour le 3e podcast.
Avec plaisir.
Suite à votre ouvrage Le manager est un psy, dont effectivement j'ai déjà évoqué le sujet en introduction. Alors, Éric Albert, pour rappel, vous êtes psychiatre, le fondateur du cabinet de conseil USAID, coach de dirigeants et conseiller en stratégie managériale. Vous êtes aussi conférencier et éditorialiste aux Échos et auteur de 12 livres. Alors, aujourd'hui, on va parler du manager, donc comme la voie de l'influence, et comment peut-il libérer, comment un manager peut libérer ou libère la passion et le talent. Du coup, pour moi, la question la première qui me vient, c'est quelle est l'attitude du manager d'influence, enfin qui influence, qui donne envie, qui fédère ses troupes au service d'un objectif commun.
D'abord, quand on parle d'influence, tout de suite, les gens peuvent avoir un élément d'inquiétude parce que ils associent vite l'influence à la manipulation. Mmh. Et donc, quelle est la différence entre l'influence et la manipulation? On a coutume de dire que, et pour moi la différence est assez claire, c'est de considérer que ça peut être des méthodes communes, mais l'intention n'est pas la même. Mmh. Quand je manipule, comme je ne peux pas avouer mon intention, je suis toujours en train de la nier. Mais non, pas du tout, je ne cherche pas du tout à t'influencer. Mais non, je ne cherche pas à faire ça, mais non. Alors qu'en réalité, bien sûr que je cherche à faire ça, je cherche à obtenir ça de toi, mais je me cache, ouais. Je me dissimule. Dans l'influence, je n'ai pas besoin de cacher mon intention. Je peux dire, oui, bien sûr, je cherche à t'influencer. Parce que voilà ce que je cherche à faire et voilà pourquoi ça me paraît important de partager avec toi ça. Et te donner envie de ça. Donc, je suis transparent sur mon intention. Ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que le manager a, et le leader a pour rôle d'avoir un effet sur les autres, et donc d'influencer les autres, mais il ne doit pas s'en dissimuler, s'en cacher. Au contraire, être très transparent sur quelles sont ses intentions et pourquoi est-ce qu'il le fait. Alors ensuite, la deuxième chose à comprendre, c'est que comment est-ce qu'on influence quelqu'un? On l'influence par nos comportements. C'est l'outil de travail d'un manager ou d'un leader, c'est lui-même.
Ouais.
C'est ses propres comportements. Mm-hmm. Donc, nos outils de travail, c'est nous-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on utilise nos propres comportements? Si on veut être très très schématique, on pourrait dire qu'il y a deux types de comportements. Chacun d'entre nous, on a régulièrement deux types de comportements. On a des comportements dits émotionnels et on a des comportements dits stratégiques. Un comportement émotionnel, c'est un comportement qu'on adopte en réaction à une émotion qu'on ressent. Par exemple, je suis extrêmement agacé par un collaborateur auquel j'ai demandé trois fois de faire la même chose et la troisième fois que je lui demande, il ne l'a toujours pas fait. Je sens la colère monter et mon comportement va être agressif, c'est-à-dire je vais monter le ton, je vais lui dire que je vais devenir sec, voire je peux être blessant à son égard ou menaçant. Maintenant, ça suffit, ça ne peut plus durer comme ça, ça fait quatre fois que je te le dis, etc. Donc, je vais commencer à faire monter le ton. Et là, je suis dans un comportement émotionnel dans le sens où ce n'est pas moi qui ai décidé d'avoir ce comportement. C'est l'émotion que j'ai ressentie et ce qui a déterminé le comportement qui est arrivé. Alors, peut-être que ça a le bon effet, que c'est ça dont l'auteur avait besoin. Parfois être un peu secoué, ça fait du bien. Mais la plupart du temps, ça a l'effet exactement inverse. C'est-à-dire que si le collaborateur n'a pas fait la chose depuis trois fois, c'est qu'il a certainement une bonne raison, peut-être qu'il ne sait pas faire. Et le fait de lui crier dessus, ça ne va pas l'aider à faire. Ça va au contraire le paralyser encore plus. Donc on est complètement exactement à côté de ce qu'on veut faire. Ça, c'est le comportement émotionnel. Et chacun d'entre nous, une partie de nos comportements, parfois plus ou moins importante, mais de plus en plus, du fait justement de notre charge mentale, de la saturation de notre bande passante, on est de plus en plus dans des comportements émotionnels sans s'en rendre compte.
C'est le fameux pilote automatique.
C'est le fameux pilote automatique. Alors que le comportement stratégique, c'est un comportement dans lequel j'ai réfléchi à l'avance à quel effet je veux produire sur l'autre. Est-ce que je veux comprendre ce qui se passe? Est-ce que je veux lui donner envie? Est-ce que je veux l'amener à réfléchir sur un sujet? Qu'est-ce que je veux faire à ce moment-là? Et si je suis très clair sur mon comportement, sur l'effet que je veux produire, on voit très bien, par exemple, un commercial avec son client, il est très stratégique. Mmh. Le client peut dire des tas de choses dans tous les sens, il n'est jamais fâché, il prend les choses bien, il retourne, parce qu'il a un sujet très clair, c'est qu'il faut qu'il arrive à clore sa vente. Donc, il est directeur commercial, il revient dans ses équipes, et là, les équipes disent une petite chose, et hop, il part en vrille. Parce que là il n'est plus du tout stratégique, il devient émotionnel. Donc, c'est cette capacité à savoir exactement ce que j'ai à faire. Donc, mon collaborateur, ça fait trois fois que je lui demande quelque chose et il ne l'a pas fait. Ma question que j'ai à me poser, c'est quel est mon enjeu là? Quel effet je veux produire sur lui? Je veux peut-être d'abord essayer, moi, de comprendre. Donc, si je veux comprendre, l'effet que je veux produire sur lui, c'est qu'il m'explique. Et donc je ne vais certainement pas commencer à l'agresser. Je vais au contraire prendre mon temps et je vais prendre un peu de recul et lui dire « Écoute, je suis très embêté, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de ça. Visiblement, si tu ne l'as pas fait, c'est ce que tu peux m'expliquer. » Et là, on va rentrer dans un dialogue, il va dire « Je ne sais pas faire », il va dire « Je n'ai pas le temps », il va dire « Je ne sais pas ce qu'il va dire ». Il va dire, j'ai pas le temps, bon, d'accord, mais alors avoir le temps, c'est hiérarchiser. Alors ça veut dire que c'est pas important pour toi, parce qu'on a tous le temps pour ce qui est important. Non, mais alors qu'est-ce qui est plus important? Et donc, et voilà, on va commencer à. Et là, on va apporter de la valeur. Parce qu'on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus concret, qui va permettre d'abord moi de comprendre le fonctionnement de mon collaborateur. Et puis pour le collaborateur, peut-être de prendre un peu plus de distance et de comprendre un peu mieux le truc.
Donc c'est questionner, écouter.
Ça va être là en l'occurrence, dans cet exemple-là. Ça va être questionner, reformuler beaucoup, mettre en perspective, l'amener à s'interroger, soi-même essayer de voir comment est-ce que j'ai bien compris ce que tu me dis, etc. Donc d'avoir cet échange dans ce cadre-là. Mais dans une autre situation, ça peut être tout à fait autre chose. Donc influencer, c'est être stratégique. C'est, c'est, Ça nous ramène à ce qu'on disait dans notre première séquence, c'est avoir ce temps d'être très très clair sur qu'est-ce que j'ai à faire, comment je réfléchis au sujet.
Mais est-ce que ça s'apprend ça? Parce que ça demande une intelligence humaine quand même, même remarquable, hein, je veux dire, ça demande, oui, de bien se connaître, de savoir s'observer, de se regarder soi-même pour être plus disponible envers les autres. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre? Parce que aujourd'hui, dans l'entreprise, est-ce que le manager que vous décrivez, le psy, est-ce que c'est quelqu'un qui existe ou c'est un fantasme? est-ce que vous voulez créer ces managers-là dans votre cabinet? Enfin, je veux dire, comment, voilà, pour les managers qui nous écoutent aujourd'hui, ceux qui sont déjà en poste et ceux en devenir, sachant que j'ai lu pas mal, je crois que c'est dans votre bouquin où vous expliquez que aujourd'hui les jeunes ne veulent plus devenir managers,
ouais,
parce que c'est trop de responsabilité, de pression. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui manager? Qu'est-ce que ça demande? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que c'est le bout du monde? Pas du tout? Est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que c'est?
Vous avez répondu à votre question vous-même quand vous dites ça suppose de s'observer, ça suppose de tester des choses, ça suppose de prendre du recul sur ce qu'on fait, ça suppose de réfléchir. Donc oui, c'est évidemment que ça s'apprend. Tout ça se développe. Simplement, ce qui est très intéressant dans le monde dans lequel on vit, c'est que on ne peut plus utiliser ses comportements de façon spontanée. Si on est spontané, et beaucoup de gens sont dans l'idéal de la spontanéité, quand je suis spontané, souvent je suis maladroit. Donc on doit, au contraire, ça ne veut pas dire ne pas être authentique, mais ça veut dire que je dois réfléchir à ma façon de réagir, je dois avoir vis-à-vis de nos grands champs de vie, et c'est ce qu'on trouve sur votre site, c'est sur notre rythme de vie, sur notre alimentation, sur le sport, sur y compris les relations humaines, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a acquis des éléments de discipline. Donc, si je n'ai pas de discipline sur mon alimentation, je mange du sucre et du gras et je deviens très vite obèse. Si je n'ai pas de discipline sur ma vie sportive, je cesse très vite, je suis un peu fatigué, j'ai un peu la flemme, on bosse tous énormément. Je laisse passer une fois, deux fois, quatre fois, et puis j'arrête de faire du sport et je perds mes capacités. Donc, on est dans des vies dans lesquelles il y a besoin de beaucoup plus d'attention, de discipline, mais quand on acquiert ça comme étant un mode de vie, on en a des bénéfices gigantesques. Eh bien, c'est exactement la même chose dans notre vie professionnelle, dans nos comportements, dans nos vies relationnelles et dans notre façon de manager. Tout ça s'apprend, tout ça se travaille, mais c'est work in progress, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fini. J'ai pas appris une fois. J'enseigne ça tous les jours et régulièrement, je m'aperçois que je suis passé à côté de la plaque, que j'ai eu un comportement émotionnel, que je me suis laissé piéger, que j'ai pas pris le temps de réfléchir avant. On est tous pareils, hein. C'est-à-dire que on sait ce qu'on a à faire et on le fait de façon plus ou moins attentive, de façon plus ou moins régulière, de façon plus je vais le faire de façon attentive et régulière, mieux je vais me porter, plus je vais être efficace et plus je vais développer. Donc personne n'est né comme ça, il n'y en a pas qui sont bons, d'autres qui sont mauvais, c'est du registre d'un entraînement individuel, mais qui est un entraînement sur soi permanent. Et c'est en ça aussi que le manager est un psy, c'est que un psy, c'est quelqu'un qui fait de la supervision, il a quelqu'un qui l'aide à prendre du recul sur ce qu'il fait et sur ce qu'il ressent, sur ce qui est là, ce qu'il va ressentir avec ses patients. S'il n'a pas quelqu'un qui l'aide à prendre ce recul-là, il est beaucoup plus en risque. Ça peut marcher, mais il est beaucoup plus en risque de déraper, par exemple, d'être plus justement lui aussi émotionnel que stratégique. Qu'est-ce qui est utile à mon patient en ce moment? Et qu'est-ce que je dois faire? Et non pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Tout ça se développe, s'apprend et surtout est un processus de vie, hein, qui n'est jamais terminé et qui fait que d'ailleurs c'est beaucoup plus intéressant c'est que je ne suis pas abouti. Personne n'est abouti. Et j'ai toujours des champs sur lesquels j'ai de la démarche de progrès, tant mieux. Le jour où j'en aurai plus, ça sera triste.
Alors, quel est l'environnement de travail propice effectivement à l'émergence de ce type de manager ?
Alors, l'émergence de travail à l'émergence de ce type de manager, c'est d'abord un environnement de travail dans lequel chacun a de la capacité à justement prendre du recul et pas totalement débordé, et pas totalement sous l'eau en permanence. N'est pas, ensuite, il faut apprendre à la fois aux managers ce travail sur eux-mêmes et en même temps de prendre de la liberté par rapport au système. Un manager apporte de la valeur s'il a de la liberté, s'il est complètement complètement porté par le système et qu'il n'est pas auto-porté par lui-même. Donc de trouver de l'espace, de la liberté, il n'apporte pas de valeur. Ensuite, c'est des environnements de travail dans lesquels le jeu relationnel est extrêmement important. Et donc, parce que ce qu'on appelle le soutien social, c'est à qui je parle de mes difficultés. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'hypothèse que les gens n'auront pas de difficultés. Tout le monde a des difficultés et à qui j'en parle. Et ça, ça suppose d'avoir un jeu relationnel qui est basé sur le support mutuel. Donc on est dans une ambiance de support mutuel et pas dans une ambiance de compétition entre les acteurs. Et puis, c'est des systèmes dans lesquels les gens ont de l'espace pour définir eux-mêmes ce vers quoi ils veulent aller. Autrement dit, sur quoi ils vont se centrer, c'est-à-dire que les tâches ne leur sont pas imposées par le haut, ils vont trouver de l'espace eux-mêmes. Donc voilà quelques éléments de principe, mais il y en a beaucoup d'autres. Nous, chez YouSide, on a l'énorme avantage de travailler avec nos clients sur ces sujets-là, et puis de nous mettre nous-mêmes dans ces questions-là par rapport à nous-mêmes.
Bien sûr.
Donc de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc on a tenté plein de choses, on avance, on teste autre chose. Donc on est une espèce de laboratoire d'expérimentation de nos propres thèses à l'intérieur du cabinet.
En dehors de YouSide, il y a une entreprise qui épouse cette logique.
Il y a des entreprises qui, par moment, les entreprises sont souvent sont très très dépendantes des croyances des chefs. Donc il faut des entreprises dans lesquelles les chefs croient à ça. Et d'une part croient à ça, et ensuite est suffisamment le temps pour mettre en place ce type de fonctionnement à l'intérieur de l'entreprise et le diffuser. Et là, ça suppose beaucoup de changements. Mais énormément d'entreprises essayent de créer ça. Donc, elles s'y arrivent avec plus ou moins de bonheur, mais elles essayent, elles tentent des choses autour de ça. Et ça, c'est très positif.
Tout à l'heure, en dehors, avant d'enregistrer, on parlait aujourd'hui, effectivement, l'OMS a qualifié le burn-out comme une maladie du travail. Vous disiez, je suis contre. Du coup, j'avais promis.
Comme une maladie, le burn-out, il me semble, en tout cas moi, en tant que psychiatre, à chaque fois que j'ai vu des burn-out, que c'était des formes de dépression. C'est une forme de dépression. On peut appeler ça une dépression d'épuisement, mais c'est une forme de dépression. Par un autre mot, ce qu'on a déjà ne me paraît pas simplifier les choses. Ensuite, un des enjeux majeurs qu'on a sur le burn-out, c'est le burn-out arrive quand un individu se dit qu'il n'a pas d'autre choix que de travailler de plus en plus. Il n'a pas d'espace pour faire autrement. Mais ne trompons pas, le burn-out, ça touche l'infirmière ou l'aide-soignante, beaucoup, toutes les équipes qui sont dans des situations de support. Mais ça touche aussi Elon Musk. Je vous rappelle que Elon Musk a fait un burn-out, il a radicalement eu un état de burn-out en fin août dernier. Et donc ça touche absolument tout le monde. Et c'est quand même Il y a l'environnement de travail. Alors, quand on parle de l'infirmière, très souvent, c'est qu'il y a un déficit énorme de personnel. Mais il y a aussi beaucoup, enfin, il y a aussi la dimension qui est comment est-ce que j'aborde la question de mon travail et comment est-ce que je suis capable de me déconnecter, de mettre des limites.
De dire non.
De dire non, absolument. Et ça, c'est absolument fondamental. Et les gens qui sont touchés par le burn-out sont des gens qui ont beaucoup de mal à avoir cette distance par rapport à leur travail. Donc, toute dépression d'épuisement ne peut pas être, nécessairement liée au mode de management. C'est aussi, ça peut être vraiment. Et on le voit notamment chez les gens qui ne sont pas managés, qui sont même les chefs d'entreprise.
Ouais.
C'est des postures. Mm. Vous voyez, et très souvent dans le burn-out, il y a quelque chose de la posture. Et c'est là-dessus sur lequel je pense qu'on n'a pas vraiment pesé complètement encore les deux dimensions. Et c'est très compliqué de les peser. On risque d'avoir. D'accentuer encore quelque chose que moi je redoute beaucoup et qu'on voit beaucoup sur le stress notamment, c'est des postures très de victimisation.
Ouais.
Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de victimes, hein. Je pense qu'il y a évidemment il y a des situations où il y a des victimes, mais il y a quelque chose dans notre société qui pousse à la victimisation. Et la victimisation, ça ne rend pas les gens heureux, ça les rend encore plus malheureux. Parce que ça les met dans un sentiment dans lequel ils subissent. Et ça leur enlève la capacité à se dire qu'ils ont de l'espace. Or, je crois, moi, très profondément, qu'il faut au contraire essayer de donner aux gens la conviction qu'ils ont de l'espace, qu'il y a des choses qui dépendent d'eux.
Et qu'ils ont une autorité.
Ils ont une autorité, ils ont de l'espace, mmh. ils ont une façon de gérer leurs propres émotions, leur propre rapport aux autres. Et là, il y a vraiment quelque chose sur lequel on peut les aider.
Eh bien, merci beaucoup, Eric.
Ben avec plaisir.
Pour toutes vos lumières et votre expérience. Je rappelle le titre de votre livre, Le manager est un psy. Construisez votre rôle et retrouvez votre liberté psychique aux éditions Erol.
Au revoir.
Au revoir. Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à y mettre des étoiles. Je vous rappelle le titre du livre d'Éric Albert et de Jean-Luc Emery, Le manager est un psy, aux éditions Erol. Je vous donne rendez-vous sur blooming.fr où vous trouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt !